This is the second time we do connectors at Silencio, so it's a great pleasure to be back here. All the speakers that we have tonight, they came through you guys, through fellow connectors. So those who came at the last session suggested speakers for today. So this is really cool because that's the entire meaning of doing this. Bringing people together who are really good at connecting people together. Today we talk about millennials. I discovered that I was still inside this generation because it's everybody who was born between 1980 and 2000. So I'm still in for a few months. Our speakers today, they are all under 25 or just at 25. And they know a lot about what is this generation about and why they do what they do and what they have in common or maybe what are the differences between them. We have between talks what we call Ideal Slam. So it means that you can pick the mic, come here with me, pick the mic and give a 30-second, one-minute pitch about what you're up to. This is actually what Penelope did last time, and this is how we spotted Charlotte, who will be speaking later today. So don't be afraid. Just come to me at the end of the first talk, and you can grab the mic and tell us what you're up to or what we can do to help you connect and be good at what you do. Our first speaker is Justin Brisset. He's 25, yes. He's a founder of Barlaine. Barlaine is a pop-up store, a home fashion pop-up store. He's been working on this for the past 4 months. He's from EM Lyon and École Centrale de Lyon. And we picked him because we thought that his example was quite inspiring about the fact that he just dropped school. I mean, he finished school, started working in a company and say, wow, doesn't mean anything for me. I want to be, you know, my own boss. I want to make something that lasts. So I'm just going to be a founder. You're going to tell us a bit more about why people, you know, young people like him, after their studies, they don't want to work for a big company. Please welcome in.
Hi, I'm Justin, and I'm just a graduate. I didn't choose to work in a big business, and I chose to become my own CEO. And actually, I'm working on Barlaine at Numa, and I would explain you why a lot of millennials like me choose to don't work in big business and choose to build their own business. First thing, actually, we have a lot of opportunities with internet. Internet who is developing in 10 years and change a lot of things. And a lot of big company find a lot of trouble with that. We have big data. We have biohacking, we have robotics and a lot of things like that to change the world and to make a big business. Actually, a team of researchers of Stanford estimate that in 5 years, 47% of job could be a robot. And it represents a lot of opportunity for us. The second thing is the tool. Actually, we have all the tools to start a business. We have crazy incubator like Numa, where I am. We have a lot of we have with internet in 3 clicks. We can find a lot of knowledge with MOOC. For example, if I have a problem in marketing, I can find the most famous expert in marketing. We can find money with crowdfunding. We can find all our customer on social media and other things. And actually, a lot of millennials like me don't choose big business because it's really slow. For example, I work during 7 months in a French big firm, and it on a robotic project, and it was quite hard because they don't want to disrupt the market, and they only want to become the first follower. And actually, I think our generation wants to make something different, and we want to to be part of the innovation. And actually, it's not a problem of technology, it's a problem of uses. Actually, technology eight times more fast than uses, and all new products, all the technology are already mature. So be enthusiastic, be an entrepreneur.
Before our next speaker, who is just behind me, I think, I'd like to make sure we can have maybe one or two ID slams. So who want to grab the mic with me? Here, come here. Someone who can just want to talk. Tanji, where are you? Come here, come over there. We have here a guy who just been accepted by YC, Y Combinator. So please come here to tell us a little bit about your story. Come. You just arrived from San Francisco yesterday. Come. Don't be shy. So I'd like a big round of applause for this gentleman.
Hi. And obviously, I'm tired. So sorry about that. So hi, everybody. My name is Tanji Bakeng. I'm the CEO and founder of AfroStream. AfroStream is a Netflix of black content. We try to give an easy access for millions of fans to black movies, TV series from the US, but also from Africa and for Europe. The idea behind AfroStream is to give new heroes, new role models to a new generation. You know, like, I grew up in France, and for me it was difficult to have, like, role models who look like me. And during all my, like, during high school, I was looking for, like, black content. So through travels and trip in the US, in Canada, I brought, like, a lot of DVDs and also VHS, but because I'm old. So and it was all about Cosby Show and like French Prince of Bel-Air and a lot of more content. And because of that, I had the confidence to feel like, okay, being black is not just about being a thug or poor. There's like other experience in life, and I knew that because I had access to stories about those lives. And my guess is with AfroStream, we will be able to change the life of millions of people, because now, because of us, we have an access to, like, more hope. We can, you know, you can, as a black man or black girl, you can dream to be a doctor if one day you see in a movie a black doctor. Except that you think there's no opportunities for you. So by giving those stories, I hope I can, like, change the life of million people and entertain them. That's it.
Thank you for sharing your story. So we have others. We have another time after this talk for ID Slam. That's a perfect connection with our next speaker. We talk about changing lives of hundreds, thousands, maybe. So you're taking some risk to get here on stage with us. So our next speaker is Charlotte de Villemorin. She was introduced to us by Penelope, as I was saying before, during an ID Slam. She started a blog called Welcome. She has a book on store since like a month and a half called Ne dites pas à ma mère que je suis handicapé. Elle me croit trapéziste dans un cirque. I said it well?
Yes.
Yes.
Wow. Bravo.
And founder of a startup called Willy's, started in December through a Kiss Kiss Bang Bang campaign. And now you're live on site, your service is live like for a week. So it's very hot. I mean, it's just happening now. You're 25 years old. And we thought about you because you know a lot about how to transform obstacles into opportunities. And that's really something that's driven the millennials in the way that they see the world and they see life. And you have a talk about this for us. Welcome.
Thank you. So over the last 3 years, I've been transforming what I believe is my main obstacle in life into a business opportunity for me and into a cooperative solution for others. My absolute obstacle in life is mobility, because when you are in a wheelchair, you're just like anyone else, except you use wheels and not legs. And the problem with wheels is that you just can't deal with steps. And in real life, there are steps everywhere. Subway, sidewalk, restaurants, silencio, cars, everywhere. It is called reduced mobility. And mobility is deeply connected to freedom. Because when you can't even take public transportation or enter a random bakery, it's very difficult to consider yourself a free person. And it's funny because what is so central in my life has purely no tangibility for the most of you. How many steps did you climb today without even realizing it? People just keep on building steps in front of every door because it is funny, but most funny, sorry, pretty, it's not funny. Then most of all, because they're not aware that it's a real obstacle for a wheelchair user, because they never see people in wheelchairs. This is what I call the nightclub effect, and I'm happy to be here to demonstrate it, because people in wheelchair don't go out because there are steps in every club. And when you ask club owners why they're not accessible, they will answer, well, I don't need to be accessible because I never seen a guy in a wheelchair in my club. And I mean, dude, there are steps all over the place. Of course you haven't. My name is Charlotte, and for some mysterious reason, people believe I am a good example to talk about obstacles. And by obstacles, I don't only mean steps. It can be like social, like the ability to attend an event or have a drink with friends. It can be cultural, like the way society treats you. It can be anything, actually. And when you're facing an obstacle, it is everything except the question of height. I will share my own experience with you because I believe it can apply to anyone who wants to turn an obstacle into an opportunity. You've probably heard about the 7 stages of grief, and it's kind of the same about overcoming an obstacle, except there are 5. First, denial. Fuck, I'll go whatever it takes. One day, I was on my way to buy some macarons on the Champs-Élysées. And I will not give you the whole story, because from one broken elevator into another, I ended trapped in the RER, going round and round from one station to another, hopelessly looking for a way to go out and exit. And I ended up home, alone, with no macarons and no dignity. 2, revolt. I was so mad that I wrote a fairly fiery email to RATP, telling them how unfair it was, how archaic and discriminating they were. And many people stop at this stage, but actually it is very useless, because this step is useless. Your interlocutor already knows everything and he can't do anything about it. And in my case, RATP was truly amazing and shown a lot of compassion. They offered me a DVD. Great relief, thank you. 3rd stage, expression. And I have been hesitating a lot about doing it because I hate moaners, and many people believe that people in wheelchair are super moaners. But I believe expression is very important because it's a way to tell the world a new story and to share a new experience of the world. And that can be done without complaining at all. So I chose my own weapon, humor, and started a blog called Welcome to share my daily life of a young girl living in a wheelchair in Paris. And I didn't know what I had started yet. Fourth stage, gathering. This is the absolute cornerstone to initiate the change. This is the most meaningful and empowering stage of all, because suddenly you're heard. People identify, they will help, and if you're not complaining about your obstacles, they will do it for sure. Step by step, I started gathering a community. Some were just like me, but most of them were absolutely not concerned by handicap. And one day, an editor asked me to write a book, and I'm so glad they did, because it was a new opportunity to gather even more people and to tell this story, the story of all of my obstacles and the way I overcame it. And they turned themselves into ambassadors, and so did my first readers, and so did the friends of my readers, and so on. Five stage, leverage. If you want the change, if you want to create an opportunity, this is the ultimate stage of all. So I have been gathering all of this community and wondering, okay, so now what can I do to solve my obstacle? What can I do to solve mobility? Union. Let's create a solidarity chain. Let's focus on every single adapted car owner and mutualize the entire fleet of adapted cars. This is not a revolution, because we hear about sharing economy and car sharing all the time, but the world of startups and innovation is still miles away from the needs of disabled people. I figured that if I could rent any cars from any wheelchair users today in France, but tomorrow in UK, Canada, Dubai, I would be able to go out and buy macaron in every single country. And if every wheelchair user could do that, well, that would be a real change, because they will become visible. And to be visible is to fully take part in society. And that's important, because it reminds people that steps do have an impact. Obstacle is not a matter of height, it's only a matter of perspective. It's in the world in itself to overcome, to find the energy to climb here and just provide a different view. Thank you.
Merci, thank you very much. Can you tell us a little bit more how the platform works?
Yes, actually it's called Willys, and it's the first peer-to-peer adapted car renting platform in the world. So it enables owners to rent directly their own adapted car to another people in a wheelchair that needs it.
How do you find them? The people in the wheelchair and the people who have car?
Well, actually, by my blog, by this community, and they speak, and that's a virtuous circle.
You know, last session was about communities. We talked a lot about that here at Silencio with the former speakers. How do you actually gather this community? How you run a community online? Just really like tips, how you started from scratch and...
Well, actually,
you talk a lot.
I didn't do anything. Community does it for itself. And this is the kind of magic here, because I don't know if I can consider my own community as a community dedicated to handicap, because I don't want to believe that, you know, we're like a ghetto or something. And the very appreciable thing about my own community is that it talks to a lot of people who do not know anything about handicap and are just happy to discover a point of view and to realize that, yes, you cannot take the subway, and yes, this kind of thing.
It's obvious, but the parallel between mobility and freedom, what you said about that, you know, that we don't really, we don't know that, we're not aware of this, And it's all about this, actually, that you have the freedom to buy macaron wherever you are in the world. It yeah. makes so much sense, no?
I mean, if I told you tomorrow, like, oh, no, don't take the subway. Where are you going? Okay, is it for a medical reason? Is it for an educational purpose? Okay, no, you just want to buy macaron? No, please stay home. This is expensive. So this is the opposite of freedom. And it discourages people and force them to stay home. And I believe it's a pity because they're just not part of the society and they should be.
You told me before that you left a well-paid job to start this.
Yes, I was working in advertising, creating wonderful PowerPoints. And I really wanted to, and I think this is very typical of the millennial generation. Like, I believe we want to make something that makes sense for us, but also for others. And I couldn't decide not to do it.
Another thing I was wondering about millennials, are they more inclined to the sharing economy thing, so that you see more of them in your platform, where it's more about educating, or maybe even people in Wiltshire are not really into the sharing economy, I don't know.
Yeah, people in Wiltshire are definitely not into the sharing economy because they're very disconnected from startups and new models like sharing economy. So it's very difficult to make them understand that we're not traditional rent agencies. We have a real educational job to do because it's brand new to them, and I discovered that.
What can we do for you, and what can you do for us?
What can you do for me? It would be nice if you could all be in a wheelchair. I invite you to talk about this project, because actually handicap could touch anyone. We all have a relative or a friend's relative, and it's a society topic. You can ask me anything about books, cars, sharing economy, and handicap.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Who dares to come and take the mic? You, come here. Who are you, and what's happening?
My name is Arno. I'm the vice president of NUMA. I'm the head of communication. Do you mind if I speak a little bit French? Because I'm going to talk about a French project. NUMA, actuellement, depuis le 22 avril, est dans une opération de crowd equity, c'est-à-dire qu'on ouvre le parti du capital à la communauté. C'est pas le sujet dont je vais vous parler là, c'est bien, ça s'appelle Yes We Crowd, c'est une jolie opération et ça s'est jamais fait dans l'histoire des écosystèmes numériques. Ce dont je voudrais vous parler, en fait, c'est que quand on a fait cette opération, on a eu un petit souci, c'est que c'est impossible d'expliquer ce qu'est NUMA. Je sais pas si les gens ici, vous savez ce que c'est, mais ça existe depuis 14 ans et c'est extrêmement compliqué d'expliquer comment cet objet, ce lieu, ce mouvement rassemble à la fois un accélérateur de start-up, un des coworking gratuits, un coworking payant, une communauté de plus de 80 000 personnes, etc. etc., etc. C'est impossible à expliquer. Et puis mais vraiment, quand je vous dis que c'est impossible à expliquer, c'est que j'en ai perdu mes cheveux, moi. Et on a eu une idée un peu dingue, et c'est ça dont je voudrais vous parler, parce que je ne sais pas si ça va marcher. Je sais que c'est un peu dingue. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a eu cette idée 2 semaines avant la parution de la série House of Cards. Et vous allez voir ce que c'est. En fait, on s'est dit, en fait, nous, si on explique NUMA, et c'est peut-être une clé pour vous dans vos projets, si on l'explique de notre côté, on n'y arrivera jamais. parce qu'on est trop dedans, parce qu'on est trop dans le tunnel, parce qu'à chaque fois, les arguments qu'on va vouloir donner, ce sont les nôtres, mais ce ne sont pas ceux qui seraient susceptibles de toucher les gens. Donc on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille chercher un écrivain. Et les écrivains, il y en a beaucoup sur la place. Donc on a été chercher un écrivain qui était un peu fou, un peu taré, qui ne connaissait rien du tout au numérique, et qui écrivait des choses qui marchaient plus ou moins bien, et surtout qui était aussi un petit peu en dépression. C'est un ami. Et en fait, j'ai déjeuné avec lui dans un restaurant, et je lui dis, voilà, il faut que vous m'aidiez, parce que quand je vous vois, on parle de tout, mais ça fait 10 ans que je le connais, et je lui dis, il faut vous m'aidiez, parce que là, j'ai un gros problème, on lance une opération importante bientôt, et je suis en incapacité totale d'expliquer le fond, vraiment ce qu'on est, l'âme. Et je pense que vous pouvez le faire. Et en fait, ce livre, il a mis ce qu'on lui a proposé, on lui a dit, voilà, on te file les clés du Nouma, tu peux y aller quand tu veux, le soir, le matin, à tes codes, t'invites qui tu veux, tes enfants, ta famille, et tu rencontres qui tu veux. Et s'il y a une personne en particulier que tu veux rencontrer, tu nous le dis, on te mettra en relation avec elle. Et pendant 3 semaines, il a navigué entre les étages, il a navigué à l'extérieur, il a rencontré des gens extrêmement importants qu'il n'a pas du tout mis dans le bouquin, il a rencontré des gens pas du tout importants qu'il a complètement mis dans le bouquin, et par contre, par important, c'est volontairement caricatural, et en fait, il nous a pendu une espèce de chef-d'œuvre. C'est ça dont je voudrais vous parler. En fait, il a écrit un livre qui correspond exactement à ce qu'on est, qui nous touche, qui n'est pas dans tous ses paragraphes à notre faveur, mais qui trace exactement l'âme de ce mouvement et dans ce lieu. Et c'est tellement été puissant qu'à l'inauguration de l'opération de Crowd qui a eu lieu le 22 avril, il y avait Axelle Lemaire qui était venue, et elle avait lu le bouquin en avant, et en fait elle m'a chopé dans l'escalier, et elle me dit, il faut que vous me voyez, il faut que vous me chopiez là, l'écrivain qui a fait ça, parce que je veux qu'il fasse la même chose pour Bercy. Pour Bercy. Ce bouquin s'appelle Yes We Crowd, le livre. Il est à disposition à Nouma, vous pouvez aller chercher en papier. Et puis on a eu l'idée, puisqu'on a vu que ça marchait un peu, et puis que les gens se le passaient, hein. On a eu des bons retours. Il est téléchargeable, il est même pas téléchargeable, en fait il est offert en numérique sur le site internet yeswecrowd.co/book. On l'a augmenté un petit peu avec des vidéos, les vidéos vont arriver, mais avec des photos. Et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est une expérience que je voulais juste vous partager, l'opération Crowd, c'est autre chose. Mais si vous avez l'occasion de le lire, si vous avez l'occasion de nous dire, si vous avez aimé, bah, dites-le. Et si ça peut vous inspirer sur vos propres projets et tout, faites raconter par d'autres. Ludovic Roubaudy. Voilà,
merci. Félix, tu viens ? Allez. Bon, on va continuer en français du coup. Tu t'assois là, si tu veux. Félix Magal.
C'est moi.
Donc, vite fait. Tu t'occupes du web, tu me corriges si ça a changé depuis.
Snatch,
vas-y, paye. Snatch Magazine.
Nouveau numéro, la haine, spécial la haine, il faut l'acheter. Sorti aujourd'hui, donc j'en parle.
On peut l'acheter où ?
Dans tous les kiosques de France, relais, etc., etc.
Vas-y, fais voir, montre un peu. Snatch. On peut le faire tourner dans la salle ? Ou c'est ouais, pas, attends, non ?
Ou peu, mais j'ai juste des notes dedans, donc j'ai fait des notes en papier pour parler dans cette conférence. Bizarre, mais vous pouvez le lire.
Oui, circuler.
Bah, si tu reviens après, ça coûte 4,50€, c'est cher quand même. Merci.
Donc tu t'occupes du web pour eux ?
Pour eux, ouais.
C'est quoi le web pour Snatch ? C'est la page Facebook en fait ?
C'est, ouais, globalement, c'est de la stratégie sur genre, leur manière de communiquer sur Internet, même s'ils ne veulent pas communiquer sur Internet. Du coup, je leur dis qu'il faut communiquer sur Internet, et c'est à peu près cette conversation que j'ai avec eux depuis à peu près un an. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant.
Tu fais Rhines France, c'est quoi ?
Ça, c'est une radio. Ouais. Je m'occupe aussi, j'aide rapidement mon meilleur ami Manaré, qui n'est pas présent actuellement. Je lui en veux. Il est là. Bonjour Manaré, vous allez bien ? Enfin, tu vas bien ? Qui est là ? Et tout est joli. Qui est une très belle radio de notre compère Manaré, ici présent.
C'était de la mode ?
C'était de la mode, oui. Je ne suis pas encore viré. C'était de la mode, oui, exactement. On en parlera après.
Ok, ça marche.
Mais on, parlons de Museum of Internet. Oui. Ou pour...
On y va, on a, c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, vous allez voir, c'est un peu interactif. Si vous n'êtes pas d'accord, vous jetez des trucs.
Non, c'est ça. Je veux qu'on me jette des trucs ou qu'on... Globalement, je ne veux pas d'alcool parce que ça tâche, mais tout le reste, on peut. L'eau, c'est bon. Il y a des bouteilles d'eau ici qui servent à jeter si vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous pouvez les ramener et me les jeter dessus.
Et vous pouvez lui poser des questions à la fin s'il ne perd pas ses papiers entre-temps. Donc, moi, en fait, c'est vrai que j'étais... Encore une fois, on m'a dit que ce serait bien de t'inviter.
Dommage, hein. Dommage, c'est vraiment dommage.
Le sujet d'aujourd'hui étant Millennials, encore une fois, et tu as 22 ans.
J'ai 22 ans.
Ouais. Et t'as monté une page qui Facebook. S'appelle Facebook, qui a 150 000 fans, qui s'appelle Museum of the Internet.
Exactement.
C'est le seul truc qu'on va dire en anglais maintenant.
Exactement, ouais.
Bon, vas-y, raconte-moi, c'est quoi Museum of the Internet, ça vient d'où ?
Museum of the Internet, c'est une page Facebook que j'ai créée il y a à peu près 2 ans, qui était... Je suis très impliqué, bizarrement, dans ce qui se passe sur Internet, et genre, l'art sur Internet, et la manière dont on peut représenter de l'art sur Internet, en me disant que tout est art et que globalement toutes les images que je vois sont extrêmement bien sur Internet, et j'étais voilà, et que je pense qu'une photo de Drake, une photo d'un chien, une photo d'une œuvre faite pour Internet, tout est art sur Internet, et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Et du coup j'ai créé cette page Facebook qui s'appelle Museum of Internet, qui a tout de suite marché très bien. J'ai pas mis un seul centime de pub, voilà, merci, comme ça
on
merci.
Peut applaudir, hein, je pense.
Merci, voilà. Qui s'est après j'ai fait un site internet où finalement les gens pouvaient partager les images qu'ils voulaient juste en drag and drop, oh, encore de l'anglais, leurs images, les images qu'ils voulaient, les images qui les plaisaient, pour faire une sorte de musée pour tout le monde et accessible à tous, où tout le monde pouvait partager. Et c'est un peu cet esprit que je voulais mettre, une idée genre sans expérience curatoriale et juste de tout.
Et du coup, c'est ce que tu as sur ton site, tu pourrais pas le mettre sur Facebook?
Ce que je mets sur Facebook, je le mets parce que Facebook est content que je le mette, parce que Facebook a des lois de censure, je ne peux pas mettre de filles nues, ce que j'aimerais beaucoup faire sur Facebook. Pas possible encore. J'essaye de faire des mails, mais ça ne marche pas. On peut faire une pétition sur Cause, peut-être, ça marchera. Non,
ça existe encore.
Je sais pas, mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens l'utilisent. Et ensuite, voilà, globalement. Mais oui, il y a plein d'images de nature pornographique sur le site du Museum of Internet que je n'ai pas mis moi-même. Merci. Et que, voilà. Donc, si vous y allez.
C'est quoi le site? Vas-y, balance.
Museumofinter.net. Pas de .com. Et ouais,
c'est beau, ouais.
Direct.
Cash, on part dans du .net. Tu peux me raconter, c'est quoi ta. Tout est art. Et ta petite théorie du médium.
J'ai une théorie, c'est par rapport au médium. C'est pour ça que là, c'est à ce moment-là où vous pouvez utiliser l'eau pour me la lancer. Globalement, je pense que ce qu'on voit sur Internet, on n'a pas encore l'habitude. Non, me lance pas encore de l'eau. Pas tout de suite. Hein. Ce qu'on voit sur Internet, on le maîtrise pas encore et on a du mal à avoir ce recul, et c'est normal. Mais je pense que tous les arts, quand ils sont arrivés, ont eu du mal. Et justement, le cinéma est devenu un art à partir du moment où la télé est arrivée. L'art télévisuel est arrivé, est un art qui est arrivé au moment où Internet est arrivé. Et je pense qu'on va découvrir l'art sur Internet au moment où il va y avoir un autre, nouveau médium. Pas Oculus Rift, parce que Oculus Rift, ça ne marchera pas. Mais un autre médium. Et je pense que voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit et pouvoir voilà dire à ses enfants: ah mais j'ai vu que c'était de l'art avant tout le monde. Et voilà. Et faire comme les frères Lumière, mais en mieux, quoi.
Ça me fait penser, quand tu me dis ça, à ton autre point là sur perdre du temps sur Internet, c'est mieux que gagner de l'argent avec Internet.
Exactement, merci de faire de structurer. Même c'est bien, ça me structure mon esprit.
Qui a une boîte qui fait de l'argent grâce à Internet dans cette salle? Levez vos mains. Allez, Internet en global, vous êtes bien là, il y a du monde, t'as vu?
Vas-y, Manaré, tu fais pas de l'argent. Manaré, c'est faux, je connais.
Menteur.
Non, je pense que le truc qu'on met pas assez en avant sur Internet, c'est que justement, c'est bien de perdre du temps. Ma page Facebook peut servir réellement à perdre beaucoup de temps. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez la liker. Vous allez perdre du temps autant que de m'écouter maintenant, en fait. Donc, c'est parfait. Je reste dans mon... Voilà. Voilà, pourquoi essayer de faire de l'argent alors qu'on peut perdre du temps comme on veut sur Internet, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut cliquer sur tous les liens qu'on voit. Dès qu'on voit un lien, on clique dessus. On s'en fout. On évite égalité et réconciliation, c'est tout ce que je veux dire. Et connaît le plus. Sinon, à part ça, après, tout dépend de votre opinion politique, mais ça me dérangerait un peu. Mais parce qu'après, ça leur fait du...
Ne pas avoir peur de cliquer. J'adore.
Ça, c'est...
Tu peux nous raconter tes meilleures découvertes derrière un clic?
Moi, je dirais l'Instagram de Booba, la réponse de Luce, Bizarre dans la Boca. Je ne vais pas faire la traduction, car elle risque d'être extrêmement violente pour les gens de ce public. Mais voilà, je l'ai dit, merci. Et à ce moment, je suis genre très fan d'Alibaba, le site chinois. On en parle beaucoup en se disant, mais personne n'y va réellement, en fait. Voilà, on se dit que c'est des sites de chinois, donc ça ne peut pas être bien... On a peur, et finalement j'ai fait des très belles découvertes. J'ai découvert globalement, si on fait des recherches sur les dinosaures sur Alibaba, j'ai trouvé une ville qui permettait de créer tous les dinosaures, qui fabrique tous les dinosaures qu'on retrouve dans les malls ou dans les musées, les fossiles aussi.
C'est pour combien? Ça coûte combien?
Ça coûte pas très cher, ça coûte genre 3000 dollars à peu près.
T'as un dinosaure chez toi.
Donc si on a envie d'aller aller sur Alibaba, chercher ça. Et il y a aussi un truc que j'aime beaucoup. Là, on est un peu borderline, on n'est pas Facebook, mais c'est les sex toys sur Alibaba. C'est extrêmement drôle parce que du coup, on voit les ateliers de fabrication où les Chinois créent leurs sex toys, et on voit surtout des photos des Chinois qui sont... Je sais pas si vous voyez, genre, avec les sextoys derrière, et c'est genre génial. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de choses.
Ça m'amène à pouvoir enchaîner avec un sujet d'actualité, avec cette loi de surveillance sur Internet, tu sais. Donc, parce que toi, t'es pour la censure, en fait.
Moi, je suis pour une certaine forme de censure. Globalement, je suis content que cette loi ait été votée. Ça nous permet. Thibaut Thomas ne me lance pas d'eau, merci. Pour une raison, c'est qu'au moins on sait qu'on est contrôlé. Je trouve ça bien, je trouve ça honnête. Sérieusement, je trouve ça plus honnête que genre le faire dans son dos. Au moins, genre, je sais qu'on me vole mes données, mais je suis genre ok. Rien à faire.
T'aimes bien que Google t'ait.
J'ai un Nexus.
Fais-le voir là. Si tu peux.
Je peux. Nexus, Google. Ah, il y a Thibaut Thomas qui m'a tweeté aussi un truc là actuellement. Voilà, donc du coup, Google le sait. Hein, Thibaut? Hein? Donc maintenant aussi le gouvernement français le sait. Merci le gouvernement français. Bonjour. Je peux passer des gens. Est-ce qu'on peut parler de l'art sur Internet, parce que j'ai fait pas mal de trucs sur ça en fait.
L'art sur Internet, je m'étais noté. Tu parlais de l'instantané là. Vas-y, les manières de présenter de l'art.
L'art instantané.
Alors préparez vos téléphones, on a des bit.ly.
On a des bit.ly.
On est technologie de pointe. On a failli faire des QR codes, on s'est dit que non.
Non, on s'est dit que non. J'ai fait deux liens bit.ly.
Allez, donc vous pouvez aller regarder sur votre téléphone.
bit.ly.
Non, bit.ly.
Non, c'est bit.ly.
Mais oui, t'as pas fait bit.ly.com, t'as pas fait celui-là, c'est le fake. T'as fait bit.ly.
Bit.ly.
Slash.
.com.
Non, pas .com.
Non.
Non. Slash maga1.
Ah ouais. Non, je crois que c'est un. Non, je crois que j'ai.
Non, t'allais pas sur .com, c'est des fake links. Enfin, tu vois. Attends, je te jure, c'est.
Je les ai envoyés en plus.
Mais si, je me les ai envoyés avant.
Ok, d'accord, alors je te fais confiance. Et c'est magal1.
Magal1 et magal2. Donc on va parler de magal1.
M-A-G-A-L.
M-A-G-A-L 1. Donc bit.ly slash magal1. Voilà. À trouver des solutions technologiques de pointe.
Parce qu'en réalité, ce que je voulais faire, c'était de parler, c'était d'avoir un ordinateur et vous présenter des choses, mais finalement, dans ce lieu, ce n'est pas possible. Je te laisse dans tes problèmes.
T'imagines que tout le monde est sur son téléphone et tout, et là, voilà.
Mais personne
n'est. C'est génial. Il tombe sur un site. Raconte-nous ce qu'il y a sur ce site.
Globalement, je voulais vous montrer ce site qui s'appelle Pointer Moderne, qui était une manière de présenter de l'art, du moins une manière dont l'art. L'art fait pour Internet pouvait être présenté d'une manière assez intéressante. Globalement, c'est un musée qui change par rapport au globalement, c'est un artiste qui crée une pièce de toute pièce.
En fait, tu vas sur le site, tu peux trouver des pièces d'expo.
Des rooms d'expo, voilà. Exactement. Et tu le choisis par rapport à l'artiste que tu veux voir. Ouais. Sur ce titre, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kim Lockton. On peut regarder le truc. C'est très vrai, c'est la 3D extrêmement bien faite. C'est utilisé avec un software assez fou. Et globalement, le musée se modifie par rapport au room qui est créé. Donc, du coup, ça fait une structure assez incroyable. Finalement, c'était une manière de présenter de l'art. Il y en a plusieurs. J'en ai retenu deux autres. Museum of Stolen Art, qui pour le coup s'utilise avec l'Oculus Rift. J'ai dit du mal tout à l'heure, je m'excuse, de l'Oculus Rift. Et qui est en fait un musée où on prend son Oculus Rift, on télécharge le musée et qui te montre toutes les pièces qui manquent selon le FBI et Interpol. Et donc du coup, on peut voir ses œuvres. C'est fort. C'est fort, c'est parce que voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir un truc sur les yeux, du coup c'est fort. J'ai mis le You Museum aussi, qui est un site pour les gens qui aiment bien les retargeting, les pubs sur internet et tout, les gens qui font du marketing, c'est génial. Fait par l'artiste Jérémy Bailey, où globalement c'était un artiste qui cherchait à avoir de l'attention et il n'arrivait pas, capturer les gens. Et il a remarqué que tous les gens étaient sur leur téléphone portable, comme c'est pas vraiment le cas maintenant. Donc du coup, les gens m'écoutent en fait depuis tout à l'heure, tu allais me le dire. Et donc du coup, il a décidé de se mettre dans des pubs sur les sites internet. Et donc du coup, globalement, à chaque fois que tu vas sur un site et que tu es allé sur son site et que tu vas sur les autres sites, bah, tu vois que ses pubs. Et du coup, il réussit à avoir un. Et du coup, il arrête de te spammer à partir du moment où tu achètes un tote bag. Jérémy Bailey. Je trouve ça pas mal. Hein.
Ouais, c'est beau, ouais.
C'est, voilà, c'est les, communication 2.0.
Et Magal 2, ça marche aussi le lien
Magal 2.
Donc bit.ly/Magal2.
Là, c'est un truc un peu plus complexe. Ça fait au moins une page. Juste une page. C'est une artiste qui s'appelle Amelia Ullman qui a fait un travail sur Instagram sur justement comment est-ce qu'on représente quelqu'un sur Internet. Et donc du coup, pendant 4 mois, a créé un scénario d'une vie totalement transformée qui n'était absolument pas la sienne. Et je la suivais sur Internet parce qu'elle est quand même assez jolie. Donc du coup, je suis à toutes les filles un peu jolies sur Internet. Du coup, je l'avais dans mon feed et tout, et je regardais, et c'était intéressant, je laguais, tout ça. Et en fait, il y avait au début, elle était vraiment, elle faisait sa cute girl, genre mode Corée, quoi, un peu innocente, voilà. Et après, elle est devenue dans le péché où elle a fait, ou dans sur ses photos, on voyait qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique, elle est en train de se refaire faire les seins et tout. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, elle a fait une série de 3 photos vidéo. Où elle rentre réellement dans une vraie dépression. Et à partir de ce moment-là, elle redevient une fille innocente qui est normale et qui mange des brunchs le dimanche midi. Et du coup, ça crée toute une esthétique qui est très étrange et quelque chose qui est quand même un malaise qui est assez fort entre l'image qu'on peut porter de quelqu'un sur les réseaux sociaux et la manière dont, par exemple, elle peut dépenser son argent parce que quand elle était dans ce moment de péché, elle était très avec de la lingerie extrêmement extrêmement chère ou des choses comme ça. Et c'est assez, je trouve que c'est un truc assez intéressant à parler. J'ai envie d'en parler. Je ne sais pas.
Donc ça, c'était Bit.ly Magal 2.
Ça, c'était Bit.ly Magal 2. Okay.
Ouais. Là, c'était sur des manières d'exposer l'art sur Internet.
C'est ça.
Ok.
Je l'ai fait au moins.
Ouais, tu l'as fait, c'est cool. Juste, en fait, j'ai terminé, tu sais.
Ouais, parce que là, en fait, c'est fini.
T'as fait tes 15 minutes. Ouais.
Putain,
c'est
pas beaucoup.
On t'a amené ici avec l'idée que t'étais un peu une sorte de hacker, mais plutôt sur la culture.
Ouais, parce que je sais pas, fait coder.
Ouais. Et que malgré les fails dans la vie, t'as essayé toujours de trouver des solutions bien, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est à peu près ça. Ça, c'est beau. Hein.
Et tu m'avais dit que t'allais slammer à la fin.
Non, je vais pas slammer. Après, je sais qu'il y a un truc de lecture après.
Ouais.
J'avais préparé des livres. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment les lire. Ils sont dans mon sac là-bas. J'ai ramené.
Non.
Je sais pas. Ok. Bon.
Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est la dernière question.
Acheter le magazine et me le redonner surtout, quoi, parce que là, genre, c'est 4,50€ parti comme ça. C'est pas sympa. Merci. C'est sympa d'être honnête. C'est rare en France. J'aimerais juste en parlant de France, j'aimerais bien partir de France. Donc, si vous avez des opportunités de travail en Corée, par exemple, ou en Asie, je suis assez preneur. Et si vous voulez encore me faire perdre du temps à cause de moi, vous pouvez liker la page Musée en Internet. Et je crois que c'est à peu près tout.
Merci.
Voilà.
Tu prends l'eau. Bon, ça y est, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On reste dans le coin pour boire des verres. Ça continue ici au Silencio. Il y a le concert un peu plus tard, une lecture ici qui va commencer dans pas longtemps du tout avec une scénographie qui est en train d'être mise en place. Vous pourrez retrouver le podcast de cette session assez vite. On vous annonce sur la suite des événements, potentiellement pour la rentrée. On est toujours ouvert sur les suggestions de speakers, de sujets, de lieux atypiques pour faire des choses atypiques et on est là pour vous connecter tous ensemble. Merci à Monica, Johanna, Julie et tout le monde ici ce soir, et passez une bonne soirée, connectez.